VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest, Libéria, la trentaine de victimes ayant péri dans l'incendie d'une école coranique dans la banlieue de Monrovia, la capitale, dans la nuit de mardi à mercredi, étaient tous d'origine guinéenne. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi Abdoulaye Doré, l'ambassadeur de Guinée dans le pays. Mais M. Doré n'a pas pu préciser si les victimes avaient effectivement la nationalité guinéenne. 26 élèves et un enseignant ont péri dans les flammes qui ont ravagé leur dortoir, mais d'autres bilans font état de 28 morts. Une importante communauté d'origine guinéenne vit au Libéria, a souligné l'ambassadeur Abdoulaye Doré en invoquant la proximité entre les deux pays voisins et les liens historiques et actuels entre leurs populations. Dans la liste des victimes consultées par l'AFP, la majorité des personnes mentionnées portaient des patronymes Peul. Les Peuls sont musulmans pour la plupart. Afrique de l'Ouest toujours, au Mali, l'annulation mardi de la réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger de 2015 qui a mis fin à la rébellion des Touaregs dans le nord du pays semble compliquer la tâche de la médiation internationale. La CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, coalition des ex-rebelles, pose désormais des conditions pour toute participation à une réunion avec le gouvernement de Bamako. Ce blocage fait suite aux questions soulevées autour du statut de Kidal, ville du nord-est du pays sous contrôle des ex-rebelles. Pour une analyse, Bagasikoura a joint à Bamako Nouhoun Togo, opposant politique et expert des questions de sécurité.
Depuis quelques temps, nous avons des problèmes très sérieux concernant tout ce qui s'est passé à Kidal avec des drapeaux du Mali qui ont été brûlés. Les autorités n'arrivent pas à aller, mais jusqu'à présent, c'est qu'on continue à dire que Kidal est avec Bamako. Je pense que qu'on a des points très sérieux avec Kidal.
Et qui contrôle Kidal alors?
Kidal est contrôlé par la CEMA aujourd'hui.
La CEMA qui est une coalition de groupes armés?
Le groupe armé, les signataires donc de l'accord, le groupe armé MLA qui s'est transformé en CEMA, donc aujourd'hui c'est eux qui gèrent Kidal.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Nos amis français qui n'ont pas été très sincères avec nous, parce que on est arrivé vers la porte de Kidal, on nous a fait arrêter à Kidal. Le MLA où la CEMA n'existait pas, la CEMA a été recréée et ils ont équipé maintenant que la CEMA contrôle aujourd'hui Kidal avec leur complicité. Après Tombouctou et Kao, on pouvait maintenant rentrer à Kidal, mais l'armée française, la politique française n'a pas autorisé l'armée malienne d'aller à Kidal.
Et pourquoi donc?
C'est une très belle question qu'on doit poser. Vous savez, nous avons vécu beaucoup de cas similaires ici. Autant Nicolas Sarkozy, ils sont même venus ici pour nous demander l'autonomie en son temps. J'étais conseiller en communication au ministère de la Défense. Nous avons refusé.
Quelle est la position de Koulouba, la présidence malienne notamment, sur la question?
Les Maliens constatent avec beaucoup de regret. Le président n'a plus de poigne pour faire face à ça. Parce que si vous avez suivi, le président de la République lui-même a fait des déclarations dans la chaîne Afrique pour dire que c'est que le choc. Ils voient des gens venir prendre leur unanimité et retourner en tant qu'Akiral et continuer à nous combattre. Aujourd'hui, un président de la République n'a plus la force nécessaire de combattre aujourd'hui ceux qui sont contre la République et ceux qui sont des terroristes. Le cas Kidal en tant qu'inquiète la sous-région, le cas Kidal inquiète Bamako, mais le président de la République n'arrive pas en tant qu'à prendre les tissus. C'est pour cela que le président nigérien est venu jusqu'à Bamako, au palais en tant que Bamako, pour dire en face au président de la République du Mali, pour dire trop c'est trop, prenez vos responsabilités contre Kidal.
Comment est-ce qu'on pourrait faire pour sauver l'accord d'Alger?
L'accord d'Alger peut être sauvé seulement si les uns et les autres acceptent d'aller dans un débat franc, sincère. On sait en acceptant d'accepter certaines choses dans l'accord, c'est qu'on va vers la division de notre pays. Il est bon que l'ensemble des responsables face à la communauté internationale puisse revenir pour voir la réalité en face et renégocier l'accord pour voir ce qui est applicable qu'on applique et ce qui n'est pas applicable qu'on se dise la vérité en face. Parce que, comme on le dit, tout problème vient poser à la solution. Mais là, si l'équation est très mal posée, il n'y a pas de solution.
Nouhoun Togo, opposant politique et expert des questions de sécurité à Bamako, au Mali.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Violence en République centrafricaine. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, a annoncé ce jeudi son intention de poursuivre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité deux ex-chefs de milices centrafricains. Patrice Edouard Ngaïsona, président de la Fédération centrafricaine de football, et Alfred Yekatom, un député. Les deux anciens chefs de milice, Anti Balaka, en détention préventive à La Haye, sont accusés notamment de meurtre, viol, acte de torture, mutilation, attaque contre des civils et enrôlement d'enfants soldats. Et ils ont comparu aujourd'hui devant les juges lors d'une audience dite de confirmation des charges devant la chambre préliminaire de la Cour pénale. Cette chambre n'a pas vocation à se prononcer sur la culpabilité des suspects, a souligné le juge Antoine Kessiambé Mindoua, en précisant que son rôle est déterminé s'il existe des preuves suffisantes pour justifier l'ouverture d'un procès. Afrique australe, au Mozambique, des dissidents de la RENAMO, l'ex-rébellion devenue principale parti d'opposition dans le pays, ont revendiqué ce mercredi deux attaques contre des véhicules et ils ont menacé de poursuivre leurs incursions si la campagne pour les élections générales d'octobre n'était pas suspendue. Le gouvernement de Maputo et la RENAMO aussi, en outre, un accord de paix censé mettre un terme à un conflit de plus de 40 ans. Une guerre civile meurtrière qui a opposé les deux camps peu de temps après l'indépendance en 1975 de l'ex-colonie portugaise et qui a duré jusqu'à la signature d'un traité de paix en 1992. La RENAMO avait ensuite repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir, le Frelimo. Afrique du Nord, en Tunisie, une nouvelle demande de libération de l'homme d'affaires Nabil Kaouri en lice pour le second tour de l'élection présidentielle a été rejetée hier. Les précisions d'Irénée Hermann Umbo.
Le juge a refusé de statuer, se déclarant incompétent, a indiqué maître Kamel Ben Messoud. Nous allons faire appel, a-t-il ajouté. Le juge d'instruction avait décidé en juillet le gel des biens de M. Karoui et de son frère Gazi, ainsi que d'une interdiction de quitter le territoire. C'est la troisième juridiction à se déclarer incompétente, a déploré un des avocats de M. Karoui, maître Nazisoui, rappelant que la cour d'appel a également refusé de statuer le 3 septembre, tout comme la cour de cassation jours plus tard. M. Karoui, dont la candidature a été validée par l'instance chargée d'organiser les élections, a fait campagne à travers son épouse Salwa Smaoui et la chaîne de télévision qu'il a fondée Nesma. Poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, il a été arrêté le 23 août, soit 10 jours avant le début de la campagne. Son arrestation avait suscité des interrogations sur une instrumentalisation de la justice. Néanmoins, il est sorti deuxième au premier tour de la présidentielle avec 15,58% des suffrages, derrière Kaïs Sayed, 18,4%.
Actualité américaine, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé ce jeudi aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une tournée dans la région du Golfe arabo-persique visant à évoquer avec les alliés des États-Unis la réponse à apporter aux récentes attaques contre les installations pétrolières saoudiennes. Lors de son escale en Arabie Saoudite la veille, M. Pompeo avait qualifié ces attaques d'actes de guerre peu après la présentation d'une enquête saoudienne selon laquelle Téhéran a incontestablement parrainé l'attaque. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Dépêché en Arabie Saoudite afin de coordonner les efforts pour contrer l'agression iranienne dans la région, M. Pompeo a réaffirmé que l'Iran était responsable des frappes dévastatrices de samedi revendiquées par les rebelles yéménites houthis, tandis que le président américain Donald Trump affirmait depuis Los Angeles disposer de beaucoup d'options pour répondre à l'Iran. À Jeddah, le chef de la diplomatie américaine a rencontré l'homme fort du pays, le prince héritier Mohamed Ben Salman. C'était une attaque iranienne, ce n'est pas venu des Houthis, a insisté M. Pompeo à son arrivée, évoquant un acte de guerre et assurant que les équipements utilisés ne sont pas connus comme faisant partie de l'arsenal des Houthis. Riyad a de son côté accusé l'Iran d'avoir incontestablement parrainé les attaques. Lors de la présentation d'une enquête officielle, le porte-parole du ministère saoudien de la Défense, Turki al-Maliki, a dévoilé des débris de drones et des missiles de croisière. Le responsable saoudien n'a toutefois pas accusé directement l'Iran d'avoir lancé les attaques depuis son territoire. Une enquête doit déterminer l'origine exacte des tirs, a-t-il dit. Et Samedine Hachina, conseiller du président iranien, a qualifié sur Twitter cette présentation de désastre médiatique pour l'Arabie Saoudite, le lieu de fabrication et de lancement des missiles n'ayant visiblement pas pu être établi. Monsieur Trump a annoncé mercredi sur Twitter avoir ordonné un durcissement substantiel des sanctions contre l'Iran et a ajouté plus tard qu'il en préciserait les détails d'ici 48 heures.